France Inter.
54 départements et la Polynésie française sous couvre-feu donc à partir de demain, soit 46 millions de personnes qui devront rester chez elles entre 21h et 6h du matin. Car la situation est grave, a martelé hier le Premier ministre. Plus de 40 000 nouveaux cas en 24 heures, près d'un million de personnes contaminées et un taux de positivité des tests qui ne cesse de grimper à 14,3%. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, a expliqué hier Jean Castex, le visage fermé et le ton grave.
Nos services hospitaliers vont être mis à rude épreuve et le nombre de morts va continuer d'augmenter. Les nouveaux cas d'aujourd'hui sont les malades hospitalisés de demain et malheureusement parfois les morts d'après-demain.
Le Premier ministre refera un point dans une semaine, mais l'exécutif et les médecins préviennent déjà que le mois de novembre sera éprouvant. Daniel Messager.
La situation est grave, le nombre de cas double tous les 15 jours. Les mesures annoncées par le gouvernement se justifient par un emballement de la progression du virus. Des contaminations qui se traduisent inévitablement par un nombre accru de malades à l'hôpital. Et c'est vraiment le facteur le plus inquiétant. Le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique.
Depuis 15 jours, on a vu une accélération de la circulation du virus. Le nombre de nouvelles hospitalisations a beaucoup augmenté comparé à ce qu'on avait vu par exemple la semaine dernière. On est autour de 1800 nouvelles hospitalisations par jour. Et ça, ça laisse présager des semaines difficiles devant nous.
En cause des températures plus basses, ce qui va forcément se poursuivre avec davantage de temps passé à l'intérieur, où le masque n'est pas souvent porté dans le cercle familial et amical. Alors ces couvre-feux suffiront-ils?
Si la dynamique qui s'est enclenchée depuis début octobre se confirme, et ça a l'air d'être le cas, il va falloir augmenter le contrôle sur la circulation du virus. Ça peut passer par les couvre-feux tels qu'ils ont été élargis sur plus de villes. Pour des mesures plus fortes qui seraient décidées par le gouvernement, hein, qui elles concernent les rencontres dans les lieux publics, je pense qu'il faut s'y attendre si la circulation du virus continue au rythme où elle a commencé. Donc je suis effectivement inquiet.
Hier, le Premier ministre a d'ailleurs mis en garde, si l'épidémie n'est pas jugulée, il faudra envisager des mesures beaucoup plus dures.
Le couvre-feu est un moindre mal, un nouveau confinement serait un désastre, a réagi hier soir le président du Conseil départemental des Hautes-Alpes qui s'interroge pour la saison de ski à venir. Quatre régions sont particulièrement touchées, Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et PACA. Mais le ministre de la Santé a insisté hier sur l'importance pour l'instant de respecter la différenciation territoriale. Ainsi, certaines grandes villes comme Nantes et Bordeaux sont épargnées quand des territoires ruraux sont concernés comme l'Ariège, la Lozère ou le Tarn. Stéphane Iglesis a rencontré des Albigeois plutôt surpris de cette décision. Reportage.
Rien ne laisse supposer en se promenant dans les rues d'Albi que le couvre-feu se prépare. Les restaurants sont bien garnis, les habitants, voire les touristes, pour la plupart masqués, se promènent comme d'habitude. Lola, jeune lycéenne, a déjà pensé à contourner le couvre-feu.
Ça ne me change rien du tout parce que même si on sort, c'est de 21h à 6h du matin. Quoi. Enfin, les soirées, ça ne dure pas 2h. Donc... Puis dans tous les cas, on est que dans des petits villages. Donc je pense qu'en vrai, ça ne va pas être tant respecté que ça, pour être honnête. Hein. De toute façon, on va rester chez la personne avec qui on fait la fête. On reste toujours deux pour faire les soirées, donc ça change rien du tout. Quoi. On repart toujours le lendemain.
Sébastien, qui est restaurateur, est très pessimiste.
C'est catastrophique. Économiquement, c'est un coup de massue sur la tête. C'est vraiment... j'en dors pas la nuit. Là, on est à genoux. Il y a eu un relâchement quand même cet été. J'ai l'impression qu'on nous a leurrés. C'est partez en vacances, amusez-vous bien, parce qu'à la rentrée, ça va faire mal.
Pour l'insouciance des sorties, comme le dit Sylvie...
C'est fini. C'était avant.
Soit ils prennent des mesures drastiques et ils font un vrai confinement court mais réel. Les gens vont se réunir chez eux. Enfin voilà, on est tous pareils. Hein. Pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau.
Ça va être boulot dodo pendant 6 semaines et ça, les habitants rencontrés n'y sont pas encore tout à fait prêts. Albi, Stéphanie Iglesis, France Inter.
Et devoir rentrer tôt à la maison n'est pas une raison suffisante pour appuyer sur le champignon. Un automobiliste a été intercepté hier soir à 249 km/h sur l'A20. Cet homme de 55 ans a expliqué aux forces de l'ordre qu'il voulait rentrer chez lui avant 21h. Son permis de conduire lui a été retiré immédiatement. La situation est devenue globalement très grave en Allemagne, où le président de l'Institut de veille sanitaire s'inquiète d'un virus qui pourrait se propager de manière incontrôlée. 3 régions italiennes sont également soumises au couvre-feu. Le reconfinement débute en Irlande et au Pays de Galles. Aux États-Unis, les autorités autorisent l'utilisation du Remdesivir pour les patients Covid. L'épidémie de Covid qui a donné lieu à une passe d'armes cette nuit lors de l'ultime débat entre Donald Trump et Joe Biden à 11 jours à présent de l'élection présidentielle américaine. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Agnès.
Grégory, vous êtes le correspondant permanent de France Inter aux États-Unis. Vous avez suivi attentivement ce débat. D'abord, Grégory, une question de forme. Cet ultime débat a-t-il été plus apaisé que celui chaotique de Cleveland ?
Oui, alors d'abord le cadre. La journaliste Kristen Walker fait face aux deux candidats suffisamment éloignés sur la scène pour des raisons sanitaires.
From NBC News. The presidential debate.
Good evening from Belmont University in Nashville.
Et à intervalles réguliers, les organisateurs coupent les micros de Trump et Biden afin que chacun puisse développer sa pensée. Donc il n'y a pas eu comme à Cleveland d'insultes, de noms d'oiseaux ou de est-ce que tu vas la fermer. Sur le fond maintenant, Joe Biden est le premier à attaquer sur le bilan de l'épidémie de coronavirus. 220 000 Américains morts. N'importe qui responsable d'autant de décès ne devrait pas rester président des États-Unis. Trump accuse le coup mais ne cherche pas à interrompre son adversaire. Et quelques minutes plus tard, c'est lui qui lance l'offensive. Elle était préparée sur le fils Biden, Hunter, et les accusations de corruption présumée. Votre famille a reçu 3,5 millions de dollars. Un jour, il faudra bien vous expliquer. Moi, je n'ai jamais reçu d'argent de la Russie. Puis ensuite, chacun joue sa partition. Trump veut être l'homme du succès économique. Biden, le président du respect et de la dignité, dont, dit-il, les Américains ont été privés pendant 4 ans. Mais en vérité, Agnès, ce débat, il ne va pas faire bouger les lignes. On est maintenant à 11 jours de l'élection, vous l'avez dit. Près de 50 millions d'Américains ont déjà voté. Et parmi ceux qui ne l'ont pas fait, il n'y a quasiment pas d'indécis. Cette dernière confrontation n'a désigné ni vainqueur, ni vaincu.
Merci Grégory Phillips, en direct ce matin de Washington pour France Inter. Et nous serons de nouveau aux États-Unis dans le Zoom à 7h15.
Il est 7h08 pour l'instant en France. Agnès, nouveau conseil de défense ce matin, une semaine après l'assassinat de Samuel Paty.
Et lors du précédent conseil de défense dimanche dernier, Emmanuel Macron avait demandé à ses ministres de l'Intérieur et de la Justice de lui faire des propositions. Selon une information de l'Opinion dont le service politique de France Inter a eu confirmation, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti envisagent la création d'un délit de séparatisme. Explication signée Simon Le Baron.
Toute la question est de savoir comment traduire en droit ce nouveau délit. Les services de Beauvau et de la place Vendôme y travaillent depuis plusieurs jours. Il pourrait s'agir de punir sévèrement les appels à la violence contre ceux qui défendent les valeurs de la République, comme la liberté d'expression et la laïcité. Référence évidente à l'engrenage qui a conduit à l'assassinat de Samuel Paty. Parmi les autres pistes, la création d'un délit de mise en danger par la publication de données personnelles sur Internet. C'est le Premier ministre Jean Castex qui l'a évoqué en ces termes devant l'Assemblée nationale, confirmant la volonté du gouvernement de serrer la vis sur les réseaux sociaux. Pas question, en revanche, de toucher à la Constitution, la chancellerie a prévenu, ce qui ferme la porte à plusieurs propositions de la droite, un concours Lépine des idées liberticides, tacle un proche du garde des Sceaux, ce qui écarte aussi une modification du droit d'asile que Gérald Darmanin souhaiterait mettre en débat. Illustration de l'équilibre à trouver entre le ministre de l'Intérieur et son collègue de la Justice, entre le partisan de la réponse forte et le garant de l'état de droit qui appelle à ne pas céder à l'émotion.
Et puis le maire de Bron, menacé de décapitation par des tags écrits sur les murs de sa commune, va porter plainte et il va bénéficier d'une protection. L'Association des maires de France dénonce des menaces intolérables. C'est inacceptable. Une cinquième mise en examen pour viol pour Tariq Ramadan. Les juges d'instruction ont finalement retenu les faits concernant l'une de ses premières accusatrices. Le témoignage de cette femme avait amené l'islamologue à reconnaître pour la première fois des relations extra-conjugales. L'alerte a été donnée suffisamment tôt pour que les dégâts restent pour l'heure limités. Un virus venu d'Asie s'attaque à la famille des cucurbitacées, courgettes, concombres et autres melons. Alors ce virus est inoffensif pour l'homme, mais dévastateur pour les cultures. Repéré en Italie et en Espagne, il a été détecté tout récemment en Occitanie et en région PACA. Manuel Ruffez.
Par chance, c'est bientôt la fin de la saison pour les productions ciblées par ce virus. Mais il faut maintenant tout mettre en œuvre pour éviter qu'il soit encore là au mois de février quand les premiers reprendront. Anne-Cécile Cotillon de la Direction Générale de l'Alimentation.
Il s'agit d'un organisme qui est peu présent sur le territoire de l'Union européenne et clairement pour lequel on ne veut pas qu'il s'implante dans l'Union européenne. Et donc l'objectif est bien de le détruire et d'empêcher qu'il se propage sur les cultures dans la mesure où il pourrait créer de nombreux dommages.
Le vecteur principal, c'est la mouche blanche ou aleurode qui dissémine le virus d'une plante à l'autre. Les symptômes, un jaunissement et un retard de croissance. Jacques Rouchausset, le président des producteurs de légumes de France.
On peut être inquiet parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a un nouveau virus, on se demande ce qui va nous tomber sur la tête. Parce qu'aujourd'hui, si on ne veut pas avoir une propagation de ce virus-là, eh bien, il faut éradiquer. L'éradication par rapport à ça, c'est une mesure quand même qui est assez rude. C'est l'arrachage et c'est l'incinération au niveau des plants. Donc c'est la perte de la culture totale.
Les producteurs sont donc appelés à la plus grande vigilance, à signaler surtout tout signe suspect et à prendre vite ces mesures drastiques, arrachage et destruction.
Enfin, alors que débute ce soir la deuxième semaine des vacances de la Toussaint, peut-être partirez-vous prendre l'air en Normandie. C'est visiblement le choix de nombreux franciliens qui, depuis quelques semaines, mettent régulièrement le cap vers l'Orne, département encore épargné par les mesures de couvre-feu. Les touristes sont un peu plus nombreux cette année que d'habitude. Jean-Baptiste Marie de France Bleu Normandie.
Situé à quelques dizaines de kilomètres seulement de la région parisienne, le Perche normand est plébiscité par les franciliens. Et ils sont bien là, en cette fin octobre, assure Adèle Gauthier-Lamiroté, directrice de l'Office du tourisme de Mortagne.
Il y a plus de monde que d'habitude, pour en croire certains hôteliers restaurateurs, ils ont l'impression de vivre un second mois de juillet, hein, rien à voir avec notre climat et les températures, mais vraiment une affluence. Mortagne et le Perche a toujours eu de réelles connexions avec Paris et la région parisienne. C'est pas quelque chose de récent, c'est un phénomène qui a tendance en fait à s'accentuer peut-être, ou en tout cas à se pérenniser.
Même constat dans le Calvados, les réservations de gîtes ont explosé, le taux d'occupation est actuellement de 72%. Il était de 59% l'an dernier à la Toussaint. Et les touristes franciliens n'y sont pas étrangers, confirme Aurélie Patin, directrice des Gîtes de France dans le Calvados.
On a une bonne fréquentation sur les vacances de la Toussaint. Aujourd'hui, c'est plus de 53% des clients qui viennent d'Île-de-France. On a gagné 10 points par rapport aux vacances de l'année dernière. Donc oui, effectivement, une belle évolution de ces clientèles.
Ce regain de l'activité touristique redonne le sourire aux professionnels qui n'avaient plus connu une telle fréquentation depuis l'été. Jean-Baptiste Marie, France Bleu Normandie pour France Inter.
Voilà, dans l'Orne, c'est l'été sans la chaleur, Nicolas.
Ah, je prends avec plaisir. Merci Agnès, c'était le journal d'Agnès Soubiran.